9h-10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Michel-Yves Bolloré, bonjour.
Bonjour Frédéric.
Vous êtes l'auteur avec Olivier Benassi du best-seller de ce début d'année, Dieu, la science, l'épreuve, qui s'est déjà vendu à 125 000 exemplaires. Vous êtes tous les deux ingénieurs et c'est en ingénieur que vous démontrez dans ce livre qu'en l'état actuel de nos connaissances scientifiques, croire en Dieu n'a rien d'irrationnel, ce serait même plutôt le contraire. C'est conforme à la raison, à la logique, ça repose même sur une méthode.
Alors écoutez, oui, c'est vrai que le XXe siècle est un siècle qui est tout à fait étonnant, parce qu'après 3-4 siècles depuis la Renaissance, où de très nombreuses découvertes avaient pu faire douter, sinon de l'existence de Dieu, au moins de la nécessité qu'il soit existant, et je pense naturellement bien sûr à Copernic, à Galilée, à Newton, Laplace, puis ensuite à Lamarck, à Darwin, etc. Les gens s'étaient dit, bon voilà, il y a des explications naturelles pour tout. Donc finalement, s'il y a des lois naturelles, des explications naturelles, et bien au fond, finalement, Dieu n'est pas nécessaire pour expliquer le monde. Et donc, s'il n'est pas nécessaire, au fond, c'est que probablement il n'existe pas. Et donc, après ces 4 siècles, et bien en 1900, on se trouve dans une époque où la plupart des intellectuels et des savants sont athées, ce qui conduira d'ailleurs à des mouvements politiques. C'est une des raisons de tous ces mouvements politiques et de ces révolutions du début du XXe siècle, notamment en 1917 en Russie, mais aussi dans beaucoup d'autres pays, en Allemagne, en Espagne, au Mexique et même en France. Donc voilà ce mouvement de 4 siècles. Et puis en fait, il s'est passé au XXe siècle quelque chose de tout à fait extraordinaire, c'est que les découvertes du XXe siècle ont été exactement à contresens, si vous voulez, de ces 4 siècles précédents. Et ces 4 siècles ont remis sur la table la question de la nécessité d'un Dieu créateur pour expliquer l'existence du monde. Voilà, donc notre livre ne parle ni de foi ni de religion. C'est très important, je pense, de le dire. Nous ne cherchons qu'à scruter l'univers pour savoir si notre univers, comme une grande horloge magnifique, est sortie du main du hasard ou si elle est sortie des mains d'un Dieu créateur.
Alors c'est vrai que la science a révolutionné notre conception de l'univers, à commencer par le Big Bang, dont la théorie a été confirmée par Robert Wilson, qui a reçu pour ça le prix Nobel de physique. Il a accepté d'ailleurs de faire la préface de votre livre. Il raconte qu'au début de sa carrière, il pensait, comme tous les scientifiques à l'époque, que l'univers était éternel, qu'il avait toujours existé. Mais sa découverte en 1964 du fond diffus cosmologique a fait voler en éclats une telle croyance. S'il n'y a eu un Big Bang, cela signifie que l'univers n'a pas toujours existé et qu'il y a eu un commencement.
Voilà, bien, c'est ça le problème. Et alors, c'est très intéressant parce que Robert Wilson, donc, qui est, comme vous l'avez dit, qui est un prix Nobel, mais pas un prix Nobel ordinaire, c'est un des plus un très, très important cosmologiste. C'est lui qui a prouvé que le Big Bang était une réalité en 1963. Il a été prix Nobel en 1978. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est d'abord, il n'est pas croyant, ce n'est pas un athée dur, si on peut dire, il est agnostique, il ne sait pas très bien, il ne sait pas. Et il le dit lui-même, il nous a fait une préface qui, je pense, est absolument magnifique pour un agnostique, mais il dit dans cette préface, dans les premières lignes, si cette théorie du Big Bang est confirmée, bon, aujourd'hui, on sait qu'elle l'est, eh bien, si cette théorie du Big Bang est confirmée, on ne peut pas échapper à la question de la création. Voilà, je pense que ça, c'est des mots très justes. Parce qu'il ne s'agit pas de donner une réponse, forcément, mais il s'agit de dire qu'en tout cas, on est face à un problème. On ne peut pas échapper à la question de la création. Voilà.
S'il y a un commencement, s'il y a création.
Voilà, ben voilà. Et alors, c'est ça le problème. Donc, alors évidemment, après, on peut beaucoup discuter de ce que c'est un commencement. Ce qu'on peut dire simplement aujourd'hui, c'est que le Big Bang, ou un autre Big Bang avant celui-là, parce qu'il peut y en avoir eu plusieurs, ça ressemble bigrement à un commencement. Voilà, on ne dit pas que c'est absolu commencement, il n'y a pas une preuve absolument scientifique de ça. Mais on peut dire aujourd'hui que c'est l'explication la plus plausible. Oui, ça ressemble à un commencement.
Sachant qu'on sait aussi qu'il n'y a pas seulement eu un commencement à l'univers, il y a aussi une fin. Hein. C'est l'idée de la mort thermique de l'univers qui découle de la seconde loi de la thermodynamique. La mort thermique, c'est que la température de l'univers tout entier se rapproche du zéro absolu. On sait que ça arrivera.
Oui, alors ça, c'est très intéressant, bien entendu, parce que c'est très antérieur. Au Big Bang, c'est très antérieur à Robert Wilson, c'est très antérieur.
Mais ça préparait l'idée du Big Bang.
Ça préparait, parce qu'en fait, le début, quand il y a une fin, il y a toujours un début. Donc en fait, la thermodynamique, qui est un mot compliqué, et il ne faut pas que ça fasse peur aux auditeurs ou aux lecteurs, en fait, c'est une question simple, c'est la découverte à la fin du 19e siècle, au début du 20e, c'est la découverte, la démonstration scientifique que le monde s'use. Voilà. Et avant, on ne pensait pas que le monde s'usait. Tout le monde pensait que le monde était éternel, y compris Einstein, quand il est prix Nobel en 1920. Einstein est absolument certain que le monde, l'univers est éternel. Et donc, en fait, la thermodynamique est la première coup de hache dans cette idée que le mort était, que l'univers est éternel, parce que il dit le monde s'use. Alors, le monde s'use, il est comme une grande bougie, il se consume. Alors, par exemple, pour être pratique pour nous, notre Soleil, il a 4 milliards d'années, mais dans 5 milliards d'années, il sera complètement éteint, il sera comme un vieux bout de bois tout noir, il sera entièrement éteint, et donc tout le système solaire sera fini. Et puis après, le Soleil, ça prendra beaucoup d'autres milliards d'années, mais ça n'a strictement aucune importance au point de vue du raisonnement, parce que c'est pareil, eh bien, toutes les étoiles de l'univers vont s'éteindre les unes après les autres. Et donc, l'univers finira dans ce qu'on appelle la mort thermique, c'est-à-dire il finira par être froid, noir et très très peu dense.
Voilà, et c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est dit, bon, bah, s'il y a une fin, il y a un commencement.
Oui, parce
et on
que,
a élaboré
voilà, parce
la théorie
qu'en fait,
du
d'une façon générale, tout ce qui a une fin, un commencement, il suffit de se mettre devant une cheminée pour faire une analogie simple et intéressante. Si on se met devant une cheminée, on voit que les bûches se consument et on peut en tirer deux conclusions. C'est que dans un certain nombre d'heures, le feu sera complètement éteint, mais on peut en tirer une autre conclusion qui est au moins aussi intéressante. C'est qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui est venu, qui a mis des bûches et qui l'a allumé. Parce que s'il n'avait jamais été allumé, il serait éteint depuis toujours.
On fait une pause, Michel-Yves Bolloré. On se retrouve juste après.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes ce matin avec Michel-Yves Bolloré, le co-auteur avec Olivier Bonassis de ce best-seller de début d'année, Dieu, la science, l'épreuve. Dans votre livre, vous évoquez évidemment la notion d'ajustement fin de l'univers, qui est à la base en cosmologie du principe anthropique proposé par l'astrophysicien Brandon Carter en 1974. Alors, pour faire simple, moi-même, je ne suis pas un physicien, je n'ai pas tout compris, mais je crois avoir compris que ça implique la présence d'un observateur. Un observateur est nécessaire à la constatation, mais aussi à l'existence d'un univers observable. Et ça répond évidemment à la question des croyants, Dieu en tant qu'extérieur à l'univers.
Alors effectivement, la question du réglage fin est un des autres piliers des grandes questions qui posent problème aujourd'hui, qui posent problème à tout le monde, qui posent problème bien sûr aux matérialistes. C'est qu'on a découvert... Et je dois dire que les scientifiques ont trouvé ça problématique, parce que les scientifiques ont découvert des tas de trucs qu'ils ne voulaient pas découvrir eux-mêmes. Einstein n'avait pas envie de découvrir que l'univers était en expansion. Ça lui posait un problème à lui terrible, parce qu'il comprenait très bien qu'une expansion de l'univers, ça signifiait un début et une fin. Et donc, comme lui n'était pas religieux, il s'écriait avec des cris d'orfraie, ah non, pas ça, c'est pas possible, c'est de la physique de curé. Il l'a vraiment dit, c'est dans le livre avec la citation et la référence. Et puis il a dit à quelqu'un d'autre une autre fois, ah non, c'est pas possible, ça ressemble trop à la Bible. Voilà. Donc, et lui, comme il était très contre la Bible, c'était vraiment quelque chose qui le dérangeait beaucoup. Donc c'est intéressant de voir que les scientifiques ont découvert des trucs qu'ils ne voulaient pas découvrir. Alors donc, après cette question de l'expansion de l'univers qui signifie, bien sûr, qui pose le problème du début et de la fin, il y a aussi cette question du réglage fin sur lequel il faut bien insister aujourd'hui. Tout le monde est d'accord sur le fait qu'il existe un réglage fin. Personne ne le conteste, même bien entendu les savants matérialistes ou athées. Effectivement, notre univers repose sur 20 ou 30 nombres extrêmement finement ajustés. On comprend la vitesse de la lumière, la masse ou la charge des particules... la constante gravitationnelle, la vitesse d'expansion de l'univers. Prenons cette dernière, la vitesse d'expansion de l'univers. Nous connaissons, c'est formidable d'ailleurs quand on y pense, nous connaissons la vitesse de l'expansion de l'univers au tout début. Eh bien, on connaît les 15 premières décimales. On a des ordinateurs très puissants. On s'est demandé qu'est-ce qui se passerait si la 15e décimale... Vous vous rendez compte ce que c'est que la 15e décimale? Si la 15e décimale de la vitesse de l'expansion de l'univers était juste un plus faible ou un plus fort, eh bien, dans les deux cas, l'univers n'existerait plus. Bon, c'est quand même un problème majeur. Bon. Qu'est-ce que disent les matérialistes? Parce qu'ils ont un problème, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, bah, écoutez, voilà, c'est vrai, mais c'est juste un coup de bol. En fait, il y a des milliards d'univers. C'est ce qu'on appelle les multivers. Il y a des milliards d'univers, et puis nous, on est dans le bon, et puis les autres, ils ont avorté, ils ont disparu, ça n'a pas marché, il n'y a pas eu de vie, etc., etc. Mais il y a des centaines de milliards d'univers. Bon, c'est une explication, théoriquement, elle n'est pas impossible. Bon, elle n'est pas très crédible, à mon avis. Voilà, il est plus simple de penser qu'effectivement, il y a un Dieu créateur qui a réglé tous ces compteurs.
Donc, au fond, l'apparition de la vie sur Terre a dépendu de tellement de facteurs, hein, si je vous ai bien compris. Il a donc fallu que le Big Bang soit réglé de façon ultra précise dans le temps et dans l'espace. La position de la Terre, du Soleil, de Jupiter, de Saturne, de la Lune, la distance moyenne entre les étoiles et notre galaxie, la quantité de matière dans l'univers, c'est-à-dire les millions de galaxies qui existent à côté de la nôtre. Tout ça, il fallait que ce soit réglé au millimètre.
Oui, et quand vous dites au millimètre, c'est pas au millimètre, c'est au milliardième de millimètre. Et puisque vous faites allusion de l'apparition de la vie, je pense que c'est la plus tardive et la plus extraordinaire des découvertes qui ont été faites par les savants, c'est la complexité extraordinaire de la moindre cellule vivante. Aujourd'hui, on sait qu'une cellule vivante, c'est un truc qui est extrêmement complexe, avec l'ADN, l'ARN, les ribosomes, des équivalents d'ordinateurs, de langage d'ordinateur qui échange, etc. Ce qui est très très intéressant, c'est que Darwin avait dit que la vie était apparue dans une soupe primitive, il avait dit ça vers les années 1850, et il avait dit, écoutez, prenez une soupe primitive, mettez-la au pied d'un volcan, avec du soufre, des éclairs de tonnerre, de la pluie et du vent, et avec plein d'éléments dedans, et puis voilà, et puis en touillant tout ça, la vie va apparaître toute seule. Et alors on a cru ça très longtemps, et même on a fait des tas d'expériences en Amérique. Il y a eu énormément de laboratoires dans les années 1950, 1960, 1970 qui ont fait des apparitions, des expériences pour essayer de créer des soupes primitives et d'essayer de voir si le vivant allait apparaître. Puis alors finalement, on a découvert tout ça, cette complexité du vivant, et tous les gens ont arrêté d'essayer de touiller des soupes primitives pour essayer de faire apparaître la vie, parce que plus personne ne croit qu'on y arrivera comme
ça. La biologie, de ce côté-là, nous a renseigné énormément, et vous en parlez évidemment dans votre livre. Le fait que l'univers est intelligible, que les mathématiques peuvent le décrire, ça va dans votre sens. C'est que l'univers a été créé par une intelligence.
Alors c'est très intéressant, parce que ça a été, en fait, finalement, ça a été dans les deux sens. C'est-à-dire que dans un premier temps, je me place par exemple à l'époque de Newton ou de Laplace, les gens étaient surpris que l'univers soit descriptible par des formules mathématiques. Et ils disaient, ben voilà, alors maintenant, s'il est descriptible par des équations mathématiques relativement simples, finalement, bon, ben c'est qu'on n'a pas besoin de Dieu pour expliquer l'univers. Si on n'a pas besoin de lui, ben c'est qu'il n'existe pas. Bon. Donc, dans un premier temps, on a trouvé que c'était plutôt pour dire que finalement, Dieu n'existe pas. Et puis après, on a trouvé que finalement, l'univers se décrivait il était extraordinairement complexe, et en même temps que les mathématiques, que tout était écrit en langage mathématique, et beaucoup de savants agnostiques ou athées sont extrêmement frappés par le fait que l'univers soit écrit en langage mathématique. Ça frappe beaucoup les gens, oui.
Michel-Yves Bolloré, ce qui m'a étonné dans votre titre, c'est le mot « preuve ». Alors, je sais que vous êtes tous les deux ingénieurs avec Olivier Bonassi, mais au fond, le mot « preuve » est à la fois dans le titre et il revient à plusieurs reprises dans l'ouvrage concernant l'existence de Dieu. Or, la foi, me semble-t-il, c'est ce qui se passe de preuve. Elle n'a pas besoin de preuve, justement, la foi. Et si Dieu voulait nous donner des preuves, il nous en donnerait sans problème. S'il ne le fait pas, c'est que son existence ne dépend pas des preuves.
Alors, vous me posez deux questions différentes. La première, c'est sur la notion de preuve. C'est très important parce qu'il y a eu beaucoup de critiques sur cette question de l'existence de preuves. Et il faut bien comprendre que les preuves, ce ne sont pas des démonstrations mathématiques. Il y a, par exemple, le théorème de Pythagore sur un triangle rectangle, l'hypoténuse et le carré de l'hypoténuse, c'est la somme des carrés des côtés. Ça, c'est une démonstration mathématique. Bon. La preuve, au sens du dictionnaire français, ce sont l'ensemble des arguments qui militent en faveur d'une thèse. C'est ça, une preuve, voilà. Eh bien, notre livre n'apporte pas une démonstration mathématique de l'existence de Dieu, il apporte les preuves au sens du dictionnaire français, c'est-à-dire tous les arguments qui montrent qu'aujourd'hui, penser qu'un Dieu créateur existe est une explication plus simple, plus rationnelle que le contraire.
Plus probable, au fond. Je me demande si vous n'auriez pas dû remplacer le mot « preuve » dans le titre « Dieu, la science, les preuves », plutôt l'appeler « Dieu, la science, les probabilités ». Au fond, j'ai l'impression qu'avec les découvertes de Copernic, Galilée, Newton, Buffon, Darwin, dont vous parliez tout à l'heure, la probabilité de l'existence de Dieu pouvait sembler se réduire. Et depuis un siècle, c'est l'inverse qui a lieu. La probabilité que Dieu a créé l'univers semble augmenter.
Alors, c'est-à-dire que si vous voulez, c'est comme dans un procès. À un moment, si vous avez juste une ou deux preuves, vous avez eu un... mettons, on est dans Agatha Christie, voilà, il y a un mort, vous avez un ou deux éléments de preuve, et vous dites, ben voilà, la probabilité, c'est que ce soit Monsieur X, soit l'assassin. Problème, c'est que quand les preuves augmentent, c'est-à-dire le nombre de témoins, l'ADN, les taches de sang, etc., quand le nombre de preuves augmente, on n'est plus dans les probabilités. Si vous voulez, le jury peut dire, bah là, voilà, on est dans une quasi-certitude. Donc, ce qui est justement, pour revenir au tout début de notre conversation, c'est qu'en réalité, les découvertes scientifiques du XXe siècle sont une somme d'arguments, ce qu'on appelle des preuves indépendantes, parce qu'elles viennent d'horizons différents, indépendantes, très important qu'elles soient indépendantes, et convergentes, et elles sont un peu comme avec le procès, elles arrivent, et finalement, leur somme à toutes ces preuves, au sens du dictionnaire français, eh bien, la somme de ces preuves, c'est que, finalement, ça emporte la conviction. On n'est plus dans la probabilité. On peut dire aujourd'hui que ce qui est raisonnable, c'est de penser qu'il existe un Dieu créateur. On ne sait pas comment il s'appelle. Ce n'est pas l'objet du livre. Ça n'est pas notre propos de savoir qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il dit, etc. Nous, on veut juste savoir s'il y a un horloger derrière cette grande machine. Et nous pensons que le matérialisme, aujourd'hui, est une explication de l'univers qui est très irrationnel et très, très, très difficile à soutenir.
Merci Michel-Yves Bolloré. Je rappelle le titre de votre livre, Dieu, la science, l'épreuve. Il est paru aux éditions Guitry et Daniel. Il est coécrit évidemment par Olivier Bonassi.